Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les matchs-là l'année dernière, où il y a deux ans, on y allait toujours un peu en demi-molle.
Ce manque d'insuffisance qu'on a eu en supériorité numérique.
Ça va être vite fait, les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Jérôme Rotten, Jonathan Macardy, Kevin Diaz. Finale du quiz dans une grosse demi-heure, mais tout de suite, on reçoit à nouveau Jean-Marc Lainé qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Jean-Marc est expert en objets sportifs, je peux te définir comme ça.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc on s'était déjà vu une première fois et tu nous avais raconté comment tu travaillais. Donc, tu organises aussi des ventes aux enchères. On va en parler parce qu'il y en a une qui arrive dans quelques jours. Évidemment, ça parle à tous les fans de foot parce que tout le monde a un maillot en tête, un truc à la maison qu'il garde précieusement et qui les remet savoir comment ça vaut, et puis les changer, et puis bref, ça, enfin, c'est un sujet, l'objet de sport qui passionne nos afteriens, donc on est ravis que tu reviennes parmi nous, d'autant qu'en plus tu es venu avec du matos. Alors, on n'est qu'à la radio ce soir, donc ce qu'on va faire, on diffuse en ce moment l'after sur Facebook, en Facebook Live, comme ça vous allez pouvoir tous profiter donc des objets que nous a ramené Jean-Marc. Alors oui, je disais, il y a une vente bientôt, c'est assez... assez peu fréquent finalement, s'il n'y en a pas beaucoup, les ventes d'objets sportifs.
Deux à trois par an, deux en moyenne, parfois trois, mais souvent deux, oui, deux.
Ah, Jérôme Bretagne sort une pompe sur le bureau.
Et le pied gauche.
Et mes chaussures de la finale de la Champions League.
Ah ouais, voilà.
Ah, t'es l'auto grise là?
Ouais.
Elles sont pas très jolies. Hein.
Bah, elles sont pas jolies,
non,
c'est un modèle.
Bah,
attends, c'était 2004.
C'était bien.
À l'époque, elles n'étaient pas encore très très personnalisées.
C'est vrai.
Ouais. Maintenant, ils mettent les prénoms des enfants.
C'est vrai, la vérité. C'est vrai qu'on n'avait pas le.
Ouais, mais
c'est
vrai
après,
qu'il y a
ça arrivait 2-3 ans après.
Regarde, il y a un petit melon brodé sur le talon là.
Il y a du diamant en dessous. C'est bizarre pourquoi le diamant s'est collé là.
Bon, alors, Jean-Marc, il y a une vente donc dans les jours qui viennent.
Le 24.
Le 24. Alors, il y a quoi à vendre?
Alors, on a plusieurs sections. Une section olympique pour les amateurs d'olympisme. Une très belle section cyclisme avec des maillots, Anctil, Van Steenbergen, etc. Et puis surtout un très gros secteur football. Donc là, avec des choses assez incroyables, puisqu'on a beaucoup d'effets de la collection Guérin, d'Henri Guérin, donc qui était l'entraîneur de l'équipe de France à la Coupe du Monde 66, qui était aussi...
ça n'a pas été une grande Coupe du Monde pour la France, mais enfin,
non, c'est... mais bon, ouais. C'était quand même voilà une Coupe du Monde, et qui était aussi Stade Rennais, qui a été champion de France deuxième division à l'époque, qui a fait surtout partie du staff de l'équipe de France pendant une très très longue
période. Donc il a accumulé des objets, des souvenirs.
Oui, pas non plus des tonnes, mais des pièces assez mythiques et assez intéressantes.
Par exemple ?
Ben, par exemple, je vais vous montrer, un maillot. Alors, on va démarrer déjà celui-ci parce que c'est très très particulier. C'est
Il
un maillot
beau.
De Bernard Bosquier.
Ah, il est magnifique.
Ah ouais,
voilà. Je le décris pour la radio. Il est tout blanc avec des liserés bleu, blanc, rouge au col.
Voilà.
Numéro 5.
Bernard Bosquier.
Avec
c'est un Norvège-France. Norvège-France 1971. Et alors, la particularité de ce maillot, c'est qu'en première mi-temps, l'équipe de France joue en manche longue avec le coq et la mention de match Norvège-France 71. Et en deuxième mi-temps, on ne sait pas pourquoi, joue en manche courte.
Ah.
Et il n'y a plus de mention de match.
Il faisait chaud, peut-être.
Voilà. En Norvège, je sais pas.
Peut-être qu'il devait lancer ce maillot, non?
Donc on n'a pas l'explication. Par contre, on a les éléments vidéo, photo, etc., qui nous prouvent que il y a eu deux maillots différents.
Ça a de la gueule, hein,
mais on va plus loin. On a d'autres.
Il est très très beau ce maillot.
Magnifique, parce que il a été utilisé.
Bah, aujourd'hui, ce serait un maillot vintage qui fonctionnerait dans les boutiques. Hein.
Ah ouais,
oui, tout à fait. Et il a été utilisé très très peu, très très peu. Je crois que c'est un ou deux matchs.
Parce que alors, Jean-Marc, tu es venu avec ton collaborateur.
Alors David, David.
Salut David.
Voilà. Donc David qui s'occupe avec moi de faire une première analyse de tous les maillots qui nous passent entre les mains. Voilà.
Donc là, vous avez vos petits secrets pour les authentifier.
Oui, on essaye, et on essaye de les garder.
Bon, sans tout dévoiler. Quelques petits secrets. On regarde quoi?
Le blason,
la couture.
Oui. Alors déjà, c'est le textile en lui-même.
Mm-hmm.
Ensuite, si c'est l'étiquette est conforme, là, on est d'une marque très connue avec un coq. Ensuite, on regarde le patch. Si le patch aussi est conforme. Et puis après, le numéro. parce qu'il y avait différents types de numéros. Là, on a un numéro qui est simili-cuir, cousu. On avait des numéros floqués, numéros après sublimés. Enfin, il y a toutes sortes de différents floquages qui déterminent si le maillot est bon ou pas bon.
Est-ce que vous, dès que vous avez un maillot en main, vous voyez?
Non. Vous pouvez honnêtement,
cette période-là,
alors, sur des pièces très anciennes, oui, parce qu'il n'y a pas de contrefaçon. Oui. Sur les pièces modernes, c'est une catastrophe. Oui. Donc, je peux pas, moi, on m'amène 10 maillots, je peux pas en 3 secondes dire c'est un vrai, c'est un faux. C'est
ça, ce maillot-là, donc Bernard Bosquier 71, si j'ai bien retenu, il y a déjà une mise à prix qui est fixée?
Oui, c'est aux alentours des 1000 euros.
Et ça peut monter jusqu'à combien, ça?
Plusieurs milliers d'euros.
Ah oui.
Si ça dépasse les 10 000, on considère que c'est une belle vente.
Non, si ça dépasse les 3-4 000, ça sera déjà une très belle vente. Ouais. Très très belle vente. On n'est pas encore dans le maillot. Il faut considérer
que là
on est sur un match amical. Dès qu'on passe dans les compétitions qualification, c'est un niveau au-dessus.
Oui, déjà.
Championnat d'Europe, c'est un niveau au-dessus. Coupe du Monde, marrant, là, c'est le Graal.
Et vous les récupérez comment? Dans des vide-greniers, des gens qui...
Non, ça n'existe pas.
Non,
ça c'est de la collection Guérin, ça.
Voilà. Donc ça, c'est les collectionneurs qui cèdent ou qui veulent vendre.
Ça peut arriver que quelqu'un vide son garage.
Ça peut arriver. Je peux pas citer le joueur, mais un joueur qui était du côté de Nice, sa femme a amené un carton et l'a mis sur le trottoir dans une brocante.
Ah.
Voilà, avec des maillots de l'équipe de France.
Vous n'avez plus de bon rapport, peut-être tous les deux. Donc elle s'est dit, il va saouler avec ses maillots.
Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose comme ça.
Et Lionel Letizy s'est fait virer de chez lui.
Non, mais arrête, sortir des noms comme ça.
Non, il y a des histoires. Voilà, ces histoires-là existent. J'ai eu le cas, par exemple, à Reims, une brocante. Donc un de mes amis, ils arrivent, pareil, sur l'étal, comme ça, par terre, et médaille. Médaille finale 56, Reims.
Ah oui, quand même.
La médaille, la médaille de participant, de finaliste. Et il pose la question aux gens. Donc les gens étaient de la famille de ce joueur, donc de l'équipe de Reims. Et vous n'auriez pas des maillots par hasard? Ah non, les maillots, ils ont été découpés pour laver les vitres. on a ça aussi, ça existe.
Ah ouais, c'est horrible.
Alors Jérôme, sûrement plus, mais même quand t'as des maillots comme ça, des fois tu donnes un maillot à un pote après un match. Hein,
bien là, sûr.
C'est sympa, j'ai joué contre cette équipe, je te donne le maillot, tu vois, peu importe, en France ou à l'étranger. Et quelques années après, tu dis... Putain, il est où mon maillot? J'aimerais bien mettre, tu vois, pour et au final, tu l'as plus.
Bon, alors, la vente, c'est donc le 24
juillet. Là,
et c'est à Paris?
Alors, 24 juillet en online. Hein. La vente ne peut pas se faire avec du public.
D'accord.
Donc, ah bah oui, exclusivement, exclusivement online, mais
pas du coup, c'est accessible pour tout le monde. Alors.
Nous, on est Drouot, donc c'est Drouot digital, Drouot online. Les gens peuvent s'inscrire gratuitement. Voilà, il n'y a pas d'obligation et ils peuvent enchérir de chez eux, de la plage, d'où ils veulent. Voilà.
Très bien. N'importe. C'est à quelle heure?
La vente commence par l'Olympisme à 11h, mais la partie football va être à partir de 15h.
C'est quoi les belles pièces que tu as pour la partie olympique?
Partie olympique, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle une fin de collection. On a quelques médailles de participants à partir de 1900. Okay. Donc on a du 1900, 1904, après Grenoble, Helsinki, etc. Enfin, on couvre un petit peu toutes les périodes, mais on a fait une grosse vente en 2019 où là, il y avait
du lourd.
Ouais.
Alors, je le rappelle parce que c'est très frustrant pour les gens qui peut-être sont en voiture et nous écoutent à la radio. Connectez-vous sur Facebook Live et vous allez voir que vous allez pouvoir profiter de tous les maillots qui sont là sur la table parce qu'on en a un petit paquet.
En plus, Jérôme, il y a un maillot de l'OM, il ne peut pas le montrer.
Le maillot de l'OM.
On va faire un truc. Jérôme, là par exemple, tu nous as mis sur la table ta chaussure dans la finale de Ligue des Champions.
J'en ai mis qu'une parce que la droite, elle me servait juste pour prendre appui, mais
il y a mais points,
ça. Mais ouais, ça c'est mes chaussures de la Champions League, donc de la finale. Unique parce que en fait c'est un modèle juste fait pour la finale en fait. Donc donc ça c'est
ça se valorise
oui parce que l'événement à partir du moment où on sait que ça a participé à la finale et une finale de Champions League
t'as les photos tout
voilà y a, en fait il faut comprendre que dans tous ces maillots tout ce qu'on appelle les objets sportifs quels qu'ils soient le côté historique est très important. Si c'est quelque chose de on va oui. dire régulier, un match de championnat, il y a moins de côté historique, sauf si c'est un PSG-OM ou voilà un match comme ça. Mais à partir du moment où on est dans des compétitions phares et en, qui plus est la finale, bon bah là, là
c'est, bon, c'est pas comme c'était la chaussure de Deco, là c'est la chaussure de Jérôme.
Non, c'est voilà. beaucoup moins. Non, mais c'est juste la chaussure du meilleur passeur de la Ligue des Champions voilà. cette année-là.
Alors, mais bon, c'est
pas ce qu'il faut voir aussi dans la victoire, dans la défaite. C'est-à-dire qu'un objet qui a une histoire a aussi une valeur, même si l'équipe a perdu ou si l'athlète a perdu.
Précisons bien que toi, tu ne fonctionnes pas évidemment à l'affect. Toi, c'est du factuel. C'est un match de l'équipe de France, par exemple, je sais pas, le maillot de Zidane France-Brésil 98, 7 ans, versus le maillot de Jérôme Rotten que tu nous as amené là, France-Malte pour ta première sélection. Forcément, oui. toi, voilà, Jérôme, lui, l'affect, il n'échangera pas son maillot de France-Malte contre le maillot de Zidane France-Brésil. Mais la valeur de Zidane,
c'est ouais. un pour. Un pour 200.
Oui, voilà, exactement. Voilà. Mais par contre, tu vois, là j'ai mon maillot de la première mi-temps de la Ligue des Champions, parce qu'il y en avait deux.
Oui.
J'en ai un autre, celui de la deuxième, il est sur un fauteuil. Tu sais, j'ai fait un fauteuil.
Ah ouais. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange à la fin du match.
Non, j'ai pas échangé.
Voilà.
Mais bon, tu voulais les garder?
Non, bah déjà parce que quand tu perds, c'est compliqué d'aller voir l'adversaire. Mais et
t'étais content qu'on te demande.
C'est ce qui s'est passé en 98 à la finale contre le Brésil. Si vous regardez les vidéos, aucun joueur n'échange son maillot à la fin du match. Parce que d'un côté ça pleure, de l'autre côté ça rit. Il y en a qu'un seul qui essaye et qui est arrêté par Diomède. Mm-hmm. C'est tu te souviens pas, David? Non, c'est pas Henri, c'est Thuram.
Ah,
c'est Thuram. Thuram qui va enlever son maillot. Je crois que c'est Diomède qui arrive et qui lui dit non,
tu le gardes.
Pour la remise de la médaille, il faut que tu gardes ton maillot.
Ouais, bien sûr. Ah, oui.
Voilà. Et vous les voyez tous avec le t-shirt.
Ils ont échangé après dans les vestiaires.
Alors, pas directement joueur à joueur, mais de ce que l'on sait, des infos qu'on a eues, c'est par les membres du staff.
Alors, là, ton maillot de finale de Ligue des Champions, tiens, montre-nous-le là. Maillot de Monaco, Puma à l'époque. Ouais. Ça, finale de Ligue des Champions d'un club français, c'est hyper rare quand même. Il y a eu que deux clubs français, hein, en l'occurrence l'OM et...
La vraie, il n'y en a eu qu'un.
Hein. Ouais, la vraie quoi
le vrai parcours, tu vois.
Bah quoi, l'OM l'a gagné.
Non, mais je plaisante, ça va, je pétille un peu.
À vue de nez comme ça, bon, il est authentique forcément, il n'y a pas de données de vérifier.
Oui.
Qu'est-ce que ça a comme valeur?
Ah bah ça, nous, c'est quelque chose qu'on mettrait en prix de départ en 1 500 euros, hein. Et bien sûr, en trouvant l'acheteur ou les acheteurs, puisque pour que ça monte, il faut qu'il y ait compétition, donc au moins deux acheteurs.
Oui,
c'est quelque chose qui peut faire plusieurs milliers d'euros.
Oui, mais encore une fois, ça coûte moins cher que le maillot de Julie.
Une chambre.
Il y a un truc qui m'intéresse quand même. En plus.
Est-ce que Jean-Marc, avec David, ton collaborateur, est-ce que vous avez,
c'est pour ça que vous perdez,
on va dire, des relations privilégiées avec certains acheteurs? Que vous pouvez un peu faire passer en priorité. Par exemple, tu sais que, je sais pas, il y a un grand malade de Monaco qui est prêt à craquer son portefeuille parce que. Et tu dis, tiens, j'ai un truc peut-être pour toi, c'est le maillot de Jérôme Rotten en finale du
Champions. Oui, c'est possible. C'est ce qu'on appelle de la vente de gré à gré. Donc là, on travaille aussi, en fait, on fait du courtage. On a un vendeur, un acheteur, et nous, on est au milieu pour assurer l'authenticité de la pièce et que tout se passe bien. Ça, c'est possible. Après, nous, on est là pour jouer une compétition. C'est-à-dire que moi, je défends avant tout les intérêts du vendeur. Je suis là pour que ça lui rapporte le plus de sous possible. Après, on a beaucoup de clients qui sont même devenus des clients amis et qui nous sollicitent ou nous consultent à chaque fois qu'ils veulent faire un achat, même extérieur. C'est-à-dire que moi, je me contente pas de présenter des maillots. On a aussi beaucoup de demandes d'expertise. D'ailleurs, je m'excuse pour tous les auditeurs qui m'ont envoyé des messages d'où. En ce moment, je suis un petit peu en retard. Sur toutes les demande que j'ai eue, ça va se rattraper durant l'été parce qu'on a été vraiment énormément sollicité et puis comme j'avais une vente aux États-Unis, c'était aussi un peu compliqué avec le confinement. Mais oui, on a beaucoup de gens qui maintenant commencent à nous faire confiance et nous demandent à chaque fois qu'ils voient un maillot sur un autre support ou une autre vente ou qu'on leur propose de les aider à être sûr qu'ils vont pas faire une erreur.
Petite pause rapide parce que c'est fini pour Manchester United, Thibauté, Aston Villa, où en est-on?
Ouais, Victor, 3-0 de Manchester United sur la pelouse d'Aston Villa, nouvelle victoire de United que l'on n'arrête plus et qui est cinquième du classement à présent. Tout roule pour Manchester United, victoire 3-0 ce soir.
Il y a quand même quelque chose qui doit...
Merci Thibaut.
Merci Tim.
il y a quand même quelque chose qui doit faciliter votre travail, c'est qu'aujourd'hui les joueurs ont quasiment deux maillots par match, alors qu'il y a, encore une.
Ah non. Rien que si je prends la Coupe du Monde 66, et ça c'est Jean Djorkaeff qui me l'avait confirmé, il avait déjà deux maillots.
Ah ouais,
ils avaient déjà deux maillots.
Mais là je parlais des équipes de clubs notamment.
Ah non, les équipes de clubs, c'est même aujourd'hui plus de deux maillots. On est à 3-4 maillots. Oh, ouais. Et parfois plus. Coupe du Monde 98, même en ayant eu Henri Émile au téléphone, ça a été un petit peu flou. Mais on était au minimum à 3-4.
Ah oui,
par match.
Ah
ouais.
Par match. Oui, par match.
On avait combien, toi, Jay?
Non, nous, on a eu l'histoire parce que t'avais vendu, on avait dit.
Celui des îles
Féroé. Et puis c'est comme ça qu'on a réussi à mettre la main sur toi. On t'a retrouvé, hein. Non, en disant, moi j'étais là, j'avais dit, non, mais attends, ils peuvent pas dire que c'est le maillot porté des îles Féroé. Ce que tu n'avais pas dit.
Tout à fait.
Mais je le savais pas. Parce que les deux, je les ai. Du moins, j'en ai un à la maison.
Et t'en avais que deux.
Moi j'en avais que deux, mais il y en avait trois ou quatre, je crois, déjà.
Il y en avait trois.
Il y en avait trois, tu vois, ce jour-là. Et en fait, le troisième, tu le vois pas. Sur le troisième, c'est au cas où
il y a un pépin,
tu te fais déchirer le maillot, chose, quoi, ouais, que ce soit, clac. Et en fait, je l'ai jamais eu entre les mains. Donc pour moi, c'est pas mon maillot. Mais en effet, il était floqué à mon nom avec le jour.
Surtout, il était. Il avait tous les codes de fabrication qui déterminent que c'est le vrai maillot.
Alors, ce que tu as décrit là tout à l'heure de la compagne ou ex-compagne d'un joueur de Nice qui a posé le carton. Moi, il m'est arrivé la même chose avec Franck Leboeuf, qui un jour est venu me voir, en me donnant un carton, en me disant tiens, je sais pas quoi faire de tout ça, je te le file. Et dans Strasbourgeois, il savait qu'il y avait des trucs de Strasbourg à l'intérieur. Ouais. Voilà. Ah, attendez, parce qu'il a filé des trucs. Je vous montre. Il y avait un maillot de l'équipe de France, par exemple. France-Islande, 99, juste après la Coupe. 98, juste après la Coupe du Monde.
D'accord.
Islande-France.
On va voir tout de suite si c'est le bon numéro.
Ah ben, on va voir. Hop, je te le donne, Jean-Marc. Mais alors, moi, celui qui a le plus de valeur pour moi, excusez-moi. C'est le maillot Tourtel du Racing Club de Strasbourg.
Alors, il faut comprendre que
il est beau en plus.
C'est magnifique, tu rigoles ou quoi?
Il faut comprendre que dans la collection, la base c'est le club. C'est-à-dire que il y a le Lensois, il veut des maillots de Lens, le Strasbourgeois il veut des maillots de Strasbourg. Donc ils vont parfois vulgairement péter les plombs pour essayer d'avoir un maillot.
C'est ça, là c'est là que l'affect entre
L'affect est énorme et on a d'ailleurs des collectionneurs qui ont des centaines de maillots du même club
et qui ne veulent que ça.
Ils veulent que ça. On est loin du président Nicolin qui lui voulait tout. Hein, voilà. Et qui est toujours, j'étais pas, il y a pas très longtemps au musée. Ça reste extraordinaire. Donc, parfois des maillots de club font des prix supérieurs à des maillots de l'équipe de France.
Franchement, je serais prêt à mettre des sous pour avoir un maillot de Gignac de l'année Bielsa. Maillot domicile de l'OM plus que pour un maillot des Bleus, hein.
Oui.
Je pense que je suis pas.
Je pensais que t'allais me dire un maillot de Francescoli ou.
L'autre nous a sorti Dédé Gignac.
Le maillot, c'est quand même le maillot de la finale de la Ligue des Champions, celui-là, mais. Puis il était beau en plus.
Bon, voilà. Jean-Marc est en train d'analyser mon maillot de l'équipe de France. Mon maillot de Franck Leboeuf.
C'est bon, il est parti dans la vente déjà, c'est trop tard.
Celui-là, on veut bien le prendre, hein.
Donc tu penses que ça, c'est.
Il est nickel, oui.
Ça, c'est authentique.
Oui, sans problème.
Bon.
Alors après. Ce que je ne peux pas faire là, c'est déterminer s'il l'a porté ou pas.
Sans le.
Comment tu le fais?
Non, si je le sens, non. Parce que là, on est quand même 98.
Comment tu fais là pour déterminer
Ça, je vais le garder.
Il a une petite tâche comme
une astuce.
Oui.
Avec du luminol,
des petites choses qui vont nous permettre de resserrer la probabilité qu'il ait été porté. Après, demain, on m'amène directement d'un joueur, un maillot plein de boue, etc. Bon, là, il y a moins de problématiques, mais là, le maillot, on peut le voir.
Il a une petite tache dans le dos.
Il est quasi immaculé. Dans cet état, il n'a pas été porté.
Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Ça peut être ça, parce que franchement, j'ai des maillots portés qui sont nickel, quoi.
C'est normal, tu défendais jamais, Jay.
Mais là, on est en septembre. Septembre, il fait beau. Je vais vous montrer pour vous dire l'état que peut être un maillot. Voilà, donc ça c'est la plus ancienne pièce qu'on va présenter dans la vente.
Alors là je le décris pour ceux qui ne sont qu'à la radio, donc c'est un maillot.
Donc c'est un maillot de Belgique-France 1957 qui a été porté, celui-ci, par André Leron.
Aujourd'hui on appellerait ça un polo manche longue.
C'est un peu ça.
Voilà.
C'est quoi la matière?
C'était le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde 58, le Belgique-France, où il fallait que la France fasse match nul minimum. Bon, elle a fait match nul, 0-0, et s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 58.
Et ça s'estime à combien, prix de départ?
6 000.
6 000
ouais, ouais. Ah oui, là, ça monte.
Ah non, mais là, ça monte, parce que là, c'est...
Tu remarques que c'est une pièce d'histoire, hein, tout simplement.
C'est le maillot de Dédé.
Les coques, à l'époque, c'était sur les maillots de l'équipe de France, sont beaucoup plus jolies que les coques d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Donc là, on est totalement dans une pièce historique, parce que c'est un match de qualification. C'est la qualification à la Coupe du Monde 58, donc on sait le résultat de la France en Coupe du Monde 58. Et voilà, ça reste vraiment une rareté. Ah ouais. Voilà, une rareté. Donc on présente celui-ci et un Jackie Simon d'un France-Belgique de 66.
Et là, alors, pour ce type de maillot-là, en général, tu te retrouves avec combien d'acheteurs potentiels qui sont là en ligne et qui vont aller essayer de se battre pour l'avoir?
En base, on peut dire, sur des montants comme ça, en base entre 5 et 10 quand même.
Ouais, quand même.
Entre 5 et 10.
Et là, c'est une clientèle internationale ou ça reste français?
Oui,
français.
Oui, international, en sachant que dans ces 10, il y a quand même beaucoup de Français. Oui.
Et alors, ces gens-là, ils gardent ou alors ils font de la spéculation?
Non.
Parce qu'ils pourraient très bien se dire, moi j'achète celui-là à 5 000 et puis je sais que je vais le revendre 7 ou 8.
Nous, on ne peut pas contrôler.
Évidemment.
Ouais. Et puis, je dirais que voilà, une fois qu'il a été vendu, que bon, son histoire, on a des maillots qu'on nous a achetés il y a 10 ans et qu'on nous repropose aujourd'hui. Parce que le collectionneur a changé de thématique, est reparti sur un autre club ou
d'autres périodes. Et ça, tu les reprends ou...
Oui, on les reprend, oui, sans problème. Oui.
Et
oui,
la cote peut avoir monté ou baissé?
Alors, en général, en ce moment, sur le foot, elle a pas vraiment baissé.
C'est-à-dire, si comme on compare l'immobilier, ça monte toujours?
Si je compare les prix de mes premières ventes début des années 2000, enfin, en football, on va dire à partir de 2007-2008, et les prix d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir.
Ah oui?
Plus rien à voir. Un maillot qui se vendait 500 euros il y a 15 ans, en vaut 2000 aujourd'hui. C'est mieux que la bourse, hein.
Et question par rapport au maillot.
Ça veut dire que Louis Nicolin, c'est un trésor en millions d'euros.
Nicolin, si on prend rien que le maillot de Pelé qu'il a contre le Chili, c'est une pièce qui, bon, on lui a donné, hein, donc ça va, mais c'est une pièce qui aujourd'hui se négocierait, puisque c'est un Coupe du Monde, je pense au-dessus de 100 000.
Ah oui, quand même.
Oui. Ouais.
Quel est le record pour un maillot de foot?
200, c'est un Pelé, toujours aux alentours de 250 000.
Ah ouais.
Ouais. Et après, c'est Maradona ou pas?
On va dire dans la hiérarchie, Pelé reste.
Le numéro 1.
Au-dessus. Voilà, c'est et au-dessus.
Typiquement.
Ensuite, Maradona.
Ouais.
Le dernier, là, qui s'est vendu, a fait 50 000. Match amical. Même pas à Coupe du Monde.
Argentine.
Même pas, voilà. Argentine, ouais, 50 000. Et si on prend, dans les autres très gros joueurs, Cruyff aujourd'hui, puisqu'il n'est plus là.
Le fameux maillot à deux bandes.
Fameux maillot à deux bandes. Le dernier qu'on a vendu.
Celui du Nicolas, et on en a un maillot à deux bandes de Cruyff.
Exact.
Et un Zidane, ça vaut combien?
Zidane, si on prend un maillot de match amical, on va être entre 3 et 5 000. Et si on passe sur des maillots avec une histoire un peu plus forte au niveau du match, ça peut monter 10, 15. Et si on parle Coupe du Monde 98, il n'y a pas de prix.
Vraiment, le gars, quand il ouvre son armoire, il va dire « Attends, moi je mettrai ça à la banque. » tu dis. Tu nous as ramené quoi d'autre, Jérôme, là, dans
un maillot de Ribéry de l'OM. Sors-le, montre-le.
Arrête, j'ai eu suite Thierry Henry. D'Arsenal. Arrête, toi.
Ah oui, exact, en plus.
Puis Thierry Henry de l'Arsenal, l'année où ils sont champions avec Arsenal. Donc,
voilà. Alors, Thierry Henry est un joueur français qui a joué donc, là beaucoup en Angleterre et qui a une très bonne cote. Il a une très bonne cote.
C'est des collectionneurs anglais, j'imagine.
Ouais. Pas forcément anglais. Mais qui a une. En fait, Thierry Henry a cette particularité dans la collection d'avoir une aura internationale.
Ouais. Voilà. En Angleterre.
Ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs. Hein. Voilà. Mais lui, il a une aura internationale.
Mais Thierry, je les ai pas tous ramenés, mais bon, Thierry, vu que on a été formés ensemble, c'est vrai que j'ai une connexion. J'ai retrouvé, là, j'ai le maillot de la Juve quand il est à la Juve. J'ai le maillot à Monaco, donc la dernière année à Monaco avant qu'il parte à la Juve. J'ai donc Arsenal et puis j'ai l'équipe de France.
C'est des pièces qui peuvent faire plusieurs milliers d'euros. Ouais.
Et juste une petite question, par exemple, dans le cas de Jérôme qui a quand même ça fait pas si longtemps que ça qu'il a arrêté sa carrière. Est-ce que c'est possible que ces maillots prennent de la valeur en fonction de je sais pas de sa popularité dans les médias ou est-ce qu'une fois que c'est fini le joueur est retraité c'est inscrit dans le marbre.
Comme je l'avais expliqué lors de la dernière émission, il y a une hiérarchie. dans la valeur des joueurs. En fait, c'est comme comme transfert. Voilà, il y a une hiérarchie et puis il y a de l'affect. Donc, si on prend son maillot de Monaco, ben un fan de Monaco va mettre beaucoup plus de moyens pour acheter un maillot de Monaco de Jérôme que sur un maillot d'un autre club ou d'un autre joueur.
Et ça prend de la valeur en fonction du temps.
Tout dépend les maillots. Dépend les maillots.
Parce qu'un joueur qui est fraîchement retraité, il y a peut-être moins d'envie d'acheter son maillot que si ça fait il a pris sa retraite depuis 15 ans.
Tout dépend du joueur. Vraiment, tout dépend du joueur. On rencontre parfois des joueurs que l'on pensait pas avoir une cote énorme et boum, parce que il y a une, deux, trois personnes qui ont un affect pour ce joueur-là et qui sont prêts à dépenser de l'argent pour.
Alors, on pose la question. Hein. Il s'appelle Jean-Marc Lenné. Donc, tu vas encore recevoir des mails, je pense, là. Parce que
il n'y a pas de souci.
Par contre, des dizaines de messages. Oui, moi, j'ai une telle maillot.
Ne pas pouvoir vous répondre immédiatement.
Ah, c'est ça, les stars, c'est ça. Hein. Et on prend le temps. Hein.
Vous êtes beaucoup à l'exercer ou tu es un cas unique en France?
En France, un cas unique, oui.
Et après, il y a quelques spécialistes disséminés.
Après, on a, il y a du consulting. Il y a des gens qui sont plus consultants qu'experts. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Le foot a pris de l'importance il y a une dizaine, douzaine d'années en France. Avant, un maillot, personne n'en voulait. Sauf des vrais collectionneurs qui ont commencé, on va dire, il y a une vingtaine. Nicolin, ça faisait une petite vingtaine d'années qu'il avait commencé. Hein. Il faut pas croire que Nicolin avait sa collection depuis 40 ans. Ça faisait une petite vingtaine d'années. Non, aujourd'hui, oui, il y a des collectionneurs qui ont des collections absolument fabuleuses, de plusieurs milliers de pièces. Et aujourd'hui on est très peu. J'ai un confrère en Angleterre, mais qui est vraiment que spécialisé sur le football anglais. Un autre confrère en Allemagne qui est bon, je passerai. et puis c'est à peu près tout.
Est-ce que toutes les grandes maisons de vente, parce que vous êtes de chez Drouot, ont une section sport?
Non, moi je suis pas de chez Drouot. Ah, okay. En fait, moi j'ai un cabinet d'expertise indépendant.
Vous bossez pour Drouot.
Et je ne bosse pas pour Drouot. Drouot est un lieu de vente. En fait, hein, c'est quand on dit Drouot, c'est l'endroit où les sociétés de vente aux enchères viennent proposer leur catalogue. Non, moi je travaille aussi bien aux États-Unis que pour beaucoup d'autres maisons de vente.
Et aux États-Unis, vous faites du football ou vous faites
de
la NBA, vous en faites aussi. Ouais,
aussi, là on avait une vente le 21 mai, on a vendu des uniformes, on appelle ça des uniformes aux États-Unis de Kobe Bryant. On a vendu différents trucs en baseball, en football américain et en soccer, ce qu'ils appellent le soccer là-bas.
Jordan, ça reste le must?
Ah bah Jordan, dernière paire de chaussures, $500,000.
Ah oui,
okay. Ah oui, quand même.
Oui, quand même, oui. Et là, dernièrement, un maillot qui a fait 250 000. Voilà, on est dans une autre sphère.
$500,000,
une paire de pompes. Bon, la mienne, attends, elle vaut combien?
Jordan, il joue même pas avec les prix.
Bon, je prends la retraite comme du gars, moi.
Non,
annonce-moi le prix, je donne ma lettre de démission.
Au niveau collection, le football intervient en tant que quatrième ou cinquième sport au niveau de l'importance financière qu'on peut lui donner.
Non, mais aux États-Unis, c'est l'histoire. Il y a plein d'anciens sportifs qui parfois se retrouvent ruinés et qui en fait se refont complètement grâce à ce qu'ils vendent.
Oui,
j'ai pas d'exemple en France de ça.
La famille de Jesse Owens a vendu sa médaille d'or de 36 à $1 million.
Voilà.
Ouais. Donc ça aide.
Il y a des joueurs de NFL, des joueurs de baseball et tout.
Les balles de baseball, j'ai l'impression que c'est un gros truc aux États-Unis là-bas.
Énorme. Mais avec beaucoup de faux.
Non, mais tu nous disais aussi que c'est vrai que là, tu parlais des médailles, mais les médailles aussi, ça a une certaine valeur parce qu'on s'en rend pas compte quand on a des médailles à la maison. Alors après, il y a médaille et médaille, on est d'accord, mais l'histoire, quand tu nous parlais des médailles de 98,
aujourd'hui, si on prend 98, il n'y a eu qu'une seule médaille qui a été vendue. Une seule.
Les autres ont tous gardé leur médaille.
C'est laquelle? Logiquement, tous les joueurs staff ont leur médaille, sauf une. Et elle a fait 100 000 euros.
C'était qui est-ce qui l'a vendu?
C'était le vice-président de la fédération française, Jean Verbeek. Enfin, il était décédé, donc c'est sa famille dans la succession qui a mis ça en vente. Voilà, et elle a fait 100 000. Et c'était au profit d'associations en plus. Hein. C'était pas au profit de la famille.
Ils ont été grands princes.
Généreux,
effectivement.
Il y a des choses qui restent rares, très rares. Là, on a vendu une médaille aux États-Unis de 94 qui a fait $40,000. et une autre de 2002 qui a fait aussi à peu près 40 000 dollars.
Et si les objets sont signés, est-ce que ça a une valeur en plus ou au contraire ça dénature le prix du produit ?
Il y a deux écoles. Moi, ma préférence est non signée. Okay. Après, si je vous ai amené aussi une pièce qui est pas mal, qui est le maillot de Sani, c'est juste le France-Italie finale de l'Euro 2000.
Oui, oui. Ah.
Porté en première mi-temps. Alors pourquoi on est sûr qu'il est porté ? Parce que vous allez voir le numéro.
Ouais.
Il a été floqué à l'envers.
Ah oui, exact. La boucle du 8 est plus grosse en haut qu'en bas.
Si vous regardez les vidéos, les photos du match, vous verrez que voilà.
Alors,
donc il a été signé par Marcel.
Ah, Manu, il a pris une cuite la veille, c'est pas possible.
Pour mon ami, etc. Et offert à un de ses amis le jour de la finale. Voilà. Donc ce maillot, c'est une pièce quand même assez extraordinaire.
Qu'est-ce qu'ils étaient grands les maillots par rapport à aujourd'hui.
Aujourd'hui les maillots sont plus grands. Marcel aussi. Là t'as l'impression qu'il y a trois personnes qui peuvent rentrer dans le maillot.
Non mais Marcel c'est une bestiole.
C'est seulement un XL. Hein.
Oui. Ouais. C'est pour ça.
C'est un XL mais c'est des XL donc
l'ancien Adidas
de France. Et puis Marcel voilà est assez.
Oui il est un peu
sans. Donc voilà donc ce maillot il a justement là on parlait de particularité, ce maillot a une particularité qui en fait réellement une pièce unique parce que c'est même pas le même que celui de la deuxième.
Donc ça lui donne une valeur en plus.
Comment ?
Donc, ça lui donne une valeur en plus.
Oui, celui-ci, il est en base à 6 000 euros.
Eh oui.
Donc, la même base qu'un maillot de 57.
Voilà.
Mais là, on est sur une finale gagnée de l'euro.
Eh ouais.
Voilà, tout simplement.
Ah, ils sont juste en dessous de mon maillot de la Ligue des Champions.
Bon, allez, un petit dernier là pour finir, là, que je vous ai ramené.
Ah, un petit dernier.
Manu France, le maillot de Saint-Etienne.
Magnifique,
Captain Larquet ?
C'est ça.
Magnifique.
Voilà.
Fabuleux. Maillot de Jean-Michel Larquet.
Alors la saison 75-76.
Tu remarqueras qu'il est beaucoup plus petit que celui de Marcel Boussaïd.
Voilà, saison 75-76. Donc, toute leur épopée.
Demain, je vais lui dire si t'as besoin un peu d'oseille, je vais te faire un chèque. Hein. Vends pas tes maillots quand même. Non, mais attends, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il fait ?
Ça, c'est un cadeau. En fait, il l'avait offert à quelqu'un qui tenait un café, comme ça se faisait très fréquemment sur Saint-Etienne. Donc, c'est un maillot qu'il a offert à l'époque à la personne qui tenait ce café. Voilà.
Bon,
on retrouve des maillots.
Ah, il est beau,
on se posait la question tout à l'heure, comment trouver les maillots. Il y a aussi ces petites histoires-là de gens qui ont reçu en cadeau des maillots. Voilà.
Jean-Marc Lenné, merci beaucoup. Le 24, la vente chez Drouot. Donc, en l'occurrence, allez sur Internet, vous trouverez ça. Merci d'être venu.
Merci.
Et Kevin, touche pas au maillot. Hein. C'est non, pas à toi, s'il te plaît. Reste.
Il vous manque celui de Saï.
Reste à distance. Ah, un dernier truc.
C'était la médaille, moi, qui.
Ah, le ballon, c'est quoi ce ballon?
Un ballon Allen Coupe du Monde. Mmh. Donc c'était un ballon Allen Coupe du Monde 38. Mais ça n'est pas le ballon de la Coupe du Monde 38. C'est le deuxième modèle, la deuxième version. La première version avait un lassage cuir. Celle-ci c'est à valve. Et c'est le ballon qu'utilisait l'équipe de France fin des années 50, début des années 60. Il jouait avec ces ballons-là.
Voilà, tu fais une tête avec ça, tu vas à l'hôpital direct. Je te
non, mais ça vous donne la comparaison par rapport
à un
ballon.
Et ça en pièce, ça vaut quoi ça ?
1000. 1000 en prix de
1000 de base.
Ah ouais. Introuvable.
Ah oui, bah oui. Ouais.
Introuvable.
Bon, par contre, tu peux pas jouer avec
ça. Vient de la collection Henri Guérin, donc on sait que ça a été joué par l'équipe de France.
D'accord.
Voilà.
Merci Jean-Marc. C'était passionnant. Nous, dans quelques instants, on passe à la finale de notre quiz, bien sûr. À tout de suite.